Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de Pas de quartier, l'émission du groupe Louise Michel, qui aujourd'hui reçoit Caroline Granier pour son dernier petit livre qui s'appelle Enquête d'héroïne.
Oui. Bonsoir à tous et toutes, puis merci de m'accueillir.
Et il y a aussi parmi nous Mariama qui fera la candide pour une fois.
Oui, ça va me changer.
Alors Caroline, ce dernier petit opus là que tu sors vient après un ouvrage beaucoup plus conséquent qui traitait un peu du même sujet, qui s'appelait « À armes égales ». Comment tu as fait pour évoluer vers Enquête d'héroïne ?
En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes dans les romans policiers, je voulais faire un petit bouquin, pas trop gros, facile à lire et à partager. Et en fait, j'ai pas réussi parce que autour des héroïnes dans les polars, il y avait plein de choses que j'avais envie de dire. J'avais envie de parler du rapport des femmes à la violence, parce que c'est ça quand même la question qui se pose, c'est des femmes armées qui vont tirer et qui parfois poursuivent des criminels, des femmes. Et il y a quand même un tabou depuis très longtemps sur la violence des femmes. Les femmes sont parfois supposées moins violentes que les hommes, etc. C'est des choses que les anthropologues, les historiennes ont beaucoup analysées. Et donc j'avais envie un petit peu, j'ai creusé vers ça, j'ai lu énormément de choses et j'avais envie d'en parler. Donc il y a toute une partie là qui parle de ça, de ces analyses sur la violence des femmes. Et puis je me suis demandé aussi, mais pourquoi il y a si peu d'auteurs pendant longtemps dans le roman policier ? En fait, souvent on dit à l'origine du polar, ce sont des femmes, les Anglaises, les Américaines. N'empêche que quand on va dans les festivals, quand on voit les revues littéraires et tout, c'est une majorité d'hommes. Alors je me suis interrogée là-dessus, j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de critiques, des chercheuses ont bien travaillé le sujet pour montrer que les femmes avaient été un peu poussées hors de ce champ-là, de ce domaine. Et je me suis dit, mais c'est la même chose dans la littérature en général, qu'elle soit noire ou blanche, c'est pareil. Donc j'ai lu des tas de choses très, très intéressantes là-dessus et j'avais envie de parler de tout ça. J'avais envie de faire un petit résumé pour les gens qui ne sont pas au courant, pour des gens comme moi qui sont profs et qui s'interrogent, qui trouvent que au bac, souvent, il y a quoi ? Il y a 98% d'auteurs masculins proposés à la lecture des élèves. Enfin, pendant très longtemps, c'était comme ça. Donc c'est des questions quand on est prof, quand on enseigne la littérature, qu'on se pose, et j'avais envie de parler de ça aussi. Ça faisait beaucoup de choses. Donc j'ai essayé de mettre tout ça de façon pas trop universitaire, mais quand même d'en donner un petit aperçu. Donc en fait ça donne un livre en deux parties. Il y a une première partie qui est un peu plus théorique, et une deuxième où j'analysais un peu le rôle des femmes dans les romans policiers que j'avais lus. Et je faisais une typologie. Mais voilà, ça fait quand même un gros bouquin et assez analytique, en fait.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, Caroline, si tu veux bien, est-ce que tu veux, pour les rares auditeurs qui ne te connaissent pas, te présenter ton parcours en deux mots de militante, de femme et de...
Féministe.
De femme féministe, oui. Merci, Mariama. Et d'autrice.
En fait, moi, j'ai commencé à... J'ai toujours aimé la littérature, donc j'ai fait des études de lettres à l'université. Et en même temps, comme je militais à la Fédération anarchiste, quand j'ai dû choisir un sujet de thèse, je me suis dit, je vais travailler sur les écrivains anarchistes. C'était logique. Comme ça, ça me permettait de faire un lien entre ma pratique militante et puis d'aller chercher dans l'histoire, dans la littérature, des sources d'inspiration. Je me suis intéressée au 19e siècle parce qu'il y avait vraiment un sujet de recherche là, à creuser. Quand j'ai commencé à travailler, mais les professeurs autour de moi disaient « Non, mais vous ne trouverez pas des écrivains anarchistes, il n'y en a pas. Vous cherchez un autre sujet de recherche, travaillez sur les anarchistes de droite, ça c'est plus intéressant. » Voilà, des choses comme ça. Et moi, je savais qu'il y en avait parce qu'il y avait le livre de Thierry Maricourt à l'époque sur la littérature anarchiste. Et donc, j'étais partie de son livre en me disant « Mais il y a une piste à creuser là. » Il avait déjà plein de noms et j'avais envie d'aller plus loin. Donc j'ai fini par écrire cette thèse et effectivement ça a donné lieu à un énorme bouquin en fait. Et je pense que c'était important parce que maintenant j'ai l'impression que ça existe, ce courant-là. Personne ne peut dire qu'ils n'existent pas, les écrivains anarchistes. En tout cas, entre 1870 et 1900, il y avait un foisonnement immense. Voilà, donc j'ai fait ça, voilà. Et puis à la FA, c'est vrai que j'étais de plus en plus féministe. Je me suis sentie de plus en plus féministe. Et puis ça a pris beaucoup de place dans ma vie, dans mon militantisme. Et comme j'aimais bien lire les polars et que ça m'intéressait, à un moment je me suis posé la question, mais quand même, certains polars sont vraiment sexistes, trop sexistes à mon goût. Et j'avais une sorte de malaise et je me suis dit, il faut que je me penche là-dessus. Là. Qu'est-ce que ça donnerait si j'allais voir vers des polars féministes, des femmes qui écrivent, des héroïnes ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Ça fait 15-20 ans.
Mais toi qui as fait des études de lettres assez poussées, tu dis dans le petit livre là que tu es agacée par les héroïnes type féminines de la littérature, de la littérature générale. Qu'est-ce qui t'agace dans les personnages féminins hors polar féministe ?
Je vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai grandi quand même avec des auteurs classiques, hein, ceux qu'on étudiait à l'époque et quand on fait des études de lettres, c'est bon. Moi, j'aimais bien les réalistes du 19e siècle, Maupassant, Balzac. Et c'est vrai que c'est un point. Il y a des très très beaux personnages de femmes, mais c'est un point de vue masculin. Ce sont les auteurs qui écrivent. Et les auteurs féminines, comme George Sand, comme André Léo, que j'ai découvert après, Louise Michel. Je les lisais pas forcément à l'époque, pendant mes études. Et donc, j'avais cette vision un peu tronquée, en fait. Mais j'avais l'habitude de me couler dans un regard masculin. C'était normal pour moi que les hommes écrivent et décrivent des femmes et nous disent ce que les femmes pensent, est-ce que les femmes, comment elles agissent, etc. Et puis quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a beaucoup de stéréotypes, que c'est leur point de vue. Et quand on écoute les femmes parler, on se rend compte que c'est un autre point de vue. Et c'est
oui,
ça qui m'a plu.
Les hommes les emprisonnaient, surtout en littérature, dans des rôles de douceur, de compréhension, de care, hein, de...
Oui, et puis...
Des rôles très... Des prototypes de rôles.
Oui, c'est ça. Il y a toute la construction sociale aussi qui fait que les femmes étaient coincées dans ces rôles-là. Hein, je me souviens, je crois que c'est Rousseau qui, à un moment, dit qu'une femme, si elle veut être désirable, rien n'est plus désirable qu'une femme qui dit non. Voilà, une femme, elle ne peut pas se permettre à l'époque d'exprimer des désirs, d'exprimer une envie, ce n'est pas possible. Donc il y a tous ces carcans-là de la société qui fait que aussi les femmes avaient du mal aussi. Et quand elles s'exprimaient, souvent elles n'étaient pas entendues. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a plu dans les romans policiers. Alors pourquoi les romans policiers, j'aurais pu m'intéresser à autre chose, mais c'était ce que j'aimais lire, et puis c'est surtout que c'est, pour moi, c'est vraiment une littérature en prise avec le social et le réel. C'est là que je trouvais la critique sociale, le néo-polar autour de Puy et tous ces auteurs-là. Moi, c'est vraiment, j'ai adoré. Et on trouve beaucoup de contestations. Mais en même temps, la critique du sexisme, je ne la trouvais pas toujours. Alors, parfois, c'était effectivement très, très anard, très révolutionnaire. Mais au point de vue des rôles genrés, alors là, on restait extrêmement réactionnaire, extrêmement conventionnel. Donc ça me gênait un peu. Et c'est pour ça que j'ai été chercher un petit peu du côté d'autres auteurs que je ne lisais pas au début, que je ne connaissais pas. Donc il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'avais 10 noms sur une feuille. 10 noms d'auteurs femmes, la plupart lesbiennes. Et je suis allée chercher, là, je me suis dit, mais c'est vachement intéressant, en fait, ça change, c'est vachement bien. Et puis petit à petit, j'ai eu de plus en plus de noms, et puis maintenant... Le polar féministe, il a la mode. Hein. C'est même un gage pour vendre.
Oui,
c'est
mal pris que je te dis que c'était branchouille. Mais c'est
pour
vrai
ça
que
tu dis que c'est branchouille. Ben oui. Alors, quelque part, j'en suis quand même super contente. Parce que ça veut dire... pour moi, c'est quand même plutôt bon signe. Même si il y a une récupération et puis il y a des choses qui ne sont pas intéressantes du tout. Mais quand même, ça montre que les choses changent, de mon point de vue.
Alors, pour parler de un peu pratique, dans les polars, qu'est-ce que tu ranges? Tu dis que tu as 5 catégories de polars, parce qu'ils ont des approches un peu différentes quant à l'intrigue.
Alors, j'en ai juste parlé un petit peu dans l'introduction pour dire justement que moi, en fait, je ne me suis pas intéressée à ça. Hein, évidemment, quand je dis polar, c'est très très large et ça englobe des choses complètement différentes. D'un côté, on a le roman de détective, on s'intéresse à l'intrigue, qui a tué, etc. On a parfois le roman noir, le thriller, des tas de choses qui sont plus ou moins centrées sur le personnage de la victime, des experts, du coupable. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas tellement, c'est-à-dire que je ne suis pas rentrée dans le détail. Donc ça va sûrement décevoir les spécialistes du polar, mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment l'approche féministe. Donc le polar pour moi était vraiment un prétexte. Ce qui m'intéresse dans le polar c'est le rapport à la violence, parce que en général qui dit polar dit enquête, et qui dit enquête dit meurtre ou en tout cas
mais dans la attaque. Deuxième partie de l'émission on va plus approfondir les thèmes qui récurrents un petit peu chez les héroïnes que tu as choisies.
Mais
alors,
voilà.
avant de passer à cette partie-là, est-ce que tu peux nous parler, ça m'a frappé, c'est les professions qu'ont tes héroïnes, les héroïnes que tu as étudiées?
Oui, alors au début, je n'ai pas fait attention, en fait. C'est pour finir sur la question que tu m'as posée au départ, pourquoi j'ai fait ce petit livre après le gros, c'est que je me suis dit, bon, le gros livre là qui parle beaucoup de pourquoi il y a si peu de femmes dans les romans policiers et si peu de femmes auteurs et qu'est-ce qu'elles apportent et pourquoi c'est important qu'il y en ait. Donc j'ai essayé d'analyser tout ça d'un point de vue historique, d'un point de vue féministe, etc. Et après, j'étais un petit peu, je suis un peu restée sur ma faim parce que d'abord, ce livre, il est gros, il coûte cher, il n'est pas forcément facile à lire quand on n'est pas à l'université. Hein,
universitaire, ouais.
Ouais, il faut vraiment s'intéresser de près aux études littéraires. Enfin, ce n'est pas un livre qui se lit facilement. Et du coup, j'étais un petit peu embêtée. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent à me demander, bon, qui me disaient, ouais, ton livre, je ne veux pas l'acheter, hein, mais dis-moi, donne-moi des noms. Moi, c'est vrai que j'ai envie de lire des romans féministes, mais je n'arrive pas, à part Fred Vargas, il n'y a rien qui me vient. Ou Agatha Christie, non, t'aimes bien Agatha Christie, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et donc, je me suis mince quand même. J'ai envie de répondre, j'ai envie de leur répondre sans leur dire, bah, achetez mon bouquin. Et donc je me disais, voilà. Oui. Et donc j'ai écrit petit pour ça, pour dire, voilà, c'est une liste d'héroïnes en fait. J'en ai trouvé 101. Et au départ, je me suis juste dit, tiens, je vais parler des héroïnes que j'aime bien. Et avec l'envie de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux et celles qui pensent qu'il y a très peu de femmes qui écrivent ou très peu d'héroïnes, etc. Donc j'ai vraiment eu envie de partager des très connues et puis des moins connues. Hein. Lisbeth Salander, je pense que tout le monde la connaît, mais il y en a dedans qui sont beaucoup moins...
Mais dans les auteurs sont moins lus, quoi, surtout.
Bien sûr, ouais. Hein. Moins distribués aussi.
Alors, donc, parmi les professions de policières ou de détectives, parce qu'elles ne sont pas toutes policières, mais enfin, elles ont toutes en commun d'être attirées par la résolution d'énigmes ou de chasse à des criminels. Donc, la moitié, c'est des policières, en fait.
En fait, oui. Le critère que j'ai choisi, c'est simplement qu'une femme, dans un roman policier, ait le premier rôle, soit l'héroïne. C'était ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'ai exclu des super enquêtrices, mais qui sont en couple avec un homme, qui agissent en binôme, ou qui sont pas, qu'ont pas le rôle principal. Je pense par exemple chez Fred Vargas, il y a un personnage que j'adore, c'est le lieutenant Rétancourt, qui est vraiment une très belle héroïne, je trouve. Mais Adamsberg reste son héros quand même, hein, le héros de la série. Donc pour ça, je l'ai pas choisi. Donc j'ai choisi vraiment des héroïnes, et c'était vraiment ça que je recherchais. Comme il y en avait, j'en avais trop, hein, je ne pouvais pas en parler de toutes, ça faisait un volume énorme. Donc j'ai choisi aussi celles qui étaient dans des séries, qui apparaissent au moins dans trois romans. Minimum trois romans, c'est-à-dire qui font l'objet d'une série. C'est pour ça que je les ai appelées après les enquêtrices en série. Et puis, donc ça c'est vraiment mes critères. J'ai choisi aussi des héroïnes qui sont récentes. Ça c'est pour une question... parce que... Il y en avait dans les années 70, il y en avait dans les années 80. Il y a eu des auteurs pionnières qui ont créé leurs personnages, des très très beaux personnages. Mais je trouve que la société a beaucoup changé. Et du coup, les questions qui se posent sont trop différentes aujourd'hui. Donc je voulais vraiment montrer, moi, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, les problématiques qui peuvent être celles des femmes d'aujourd'hui et dont parle la fiction. Donc c'est pour ça que j'ai commencé plus ou moins dans les années 90. Et après, voilà, je me suis retrouvée avec, à un moment, une centaine d'héroïnes. J'en ai gardé donc 101. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais quand même faire un petit relevé pour savoir combien il y en a de policières, de détectives privés, etc. Et j'étais étonnée de voir qu'il y avait effectivement la moitié de policières, bon, ce qui n'est pas très étonnant, maintenant que les femmes sont entre massivement
dans la police.
Pour les
romans policiers,
ce n'est
pas étonnant du tout. Ce
n'est pas très étonnant, mais ceci dit, c'est récent, parce que jusque dans les années 70, il n'y avait pas de femmes dans les
commissariats.
Voilà. Donc, il ne pouvait pas y avoir de femmes policières, c'était complètement impossible, ce n'était pas réaliste, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant de voir comment ça suit l'évolution aussi des métiers. Donc là, il y a de plus en plus de femmes policières, surtout aux États-Unis, mais il y a encore des privés. Alors, c'est intéressant, le personnage du détective privé, un peu sur le modèle du détective hard-boiled américain, le dur à cuire. Et puis, il y en a, alors, et c'est ça que j'ai trouvé passionnant, qui ont des professions tout à fait improbables.
Alors oui, alors là, il y a un choix. Un choix énorme. Je me suis amusé à en relever quelques-uns. Alors, évidemment, profileuse, c'est à la mode.
Oui.
Légiste, procureur, avocate, journaliste, assistante sociale, psychothérapeute, garde du corps, ranger, enseignante, guide, éboueuse, Éboueuse, pour le faire.
Alors, Éboueuse, c'est un personnage magnifique créé par une Italienne et qui, voilà.
Femme de ménage, catcheuse, sculptrice, prof d'haltérophilie, masseuse et stripteaseuse, serveuse, chauffeuse taxi, etc. Donc, c'était un véritable panorama de la société contemporaine.
Ouais, et c'est intéressant. Hein. Par exemple, la femme de ménage, bah, elle a un accès à l'intimité des gens chez qui elle travaille et qui lui permet justement d'avoir les petits secrets, etc. La psy, elle est habituée à interpréter, à regarder les non-dits, à traquer les symptômes. Et finalement, que fait la détective? C'est un peu la même chose. Donc à chaque fois, il y a des choses assez intéressantes. Bon, pour une journaliste, c'est moins étonnant, évidemment, de mener une enquête.
Ah oui, c'est les journalistes d'investigation.
Oui,
plutôt.
Et genre, il y en a plusieurs. Ça, c'est plus logique et c'est moins original. Mais voilà, chez Dominique Sylvain, il y a une personnage qui est masseuse et stripteaseuse. Bah, ça change un peu et puis ça fait bouger aussi les rôles. Voilà, donc ça, je me suis amusée à un peu faire des petites listes dans mon introduction pour montrer un peu la variété en fait, des profils. C'est ça qui m'a intéressée, c'est de montrer que ces femmes, en fait, reflétaient plein de parcours différents.
C'est Madame Tout-le-Monde.
Ça peut être Madame Tout-le-Monde, voilà. Ouais. On peut s'identifier, en tout cas, on peut s'identifier, c'est ça qui est intéressant.
On s'identifie facilement.
C'est pas que des superwomen non plus.
Il y a, parmi les critères de choix, il y en a un que tu cites dans le livre et que je trouve tout à fait caractéristique de ta personnalité, c'est que pour le choix des héroïnes, c'est qu'il faut avant tout qu'elles te plaisent.
Oui, alors évidemment, j'allais pas faire un relevé complètement exhaustif, c'était juste pas possible. Et donc il y avait forcément un choix à faire. Et il y a sûrement des super héroïnes que je n'ai pas intégrées et d'autres qui vont être critiquées. Mais donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait que c'était complètement partiel et partial. Et que voilà, j'ai délibérément écarté certains profils. Alors j'ai écarté toutes les héroïnes qui n'étaient pas spécifiquement féministes. Non pas en parole, parce qu'il y en a plein qui ne se déclarent pas féministes, mais dans leur
attitude. Elles sont sans le savoir.
Dans leur attitude, c'est-à-dire qu'ils ne luttent pas. C'est-à-dire que celle que j'ai gardée, c'est quand même des femmes qui, à un moment, se trouvent face à un obstacle, face à du sexisme, que ça vienne de leurs collègues, de la hiérarchie...
Ou de la société,
et qui ont un problème avec ça, et qu'ils dénoncent ce problème. Voilà. J'ai pas gardé des tas de romans très à la mode, et on en trouve beaucoup aux États-Unis, où il y a une superwoman qui est là, elle est détective, elle a un super mari, tout se passe bien, son mari est dans la police, et ils travaillent bien ensemble, et le chef est adorable, et s'entendent bien, et puis ça se passe bien dans sa famille, et tout roule, et on a l'impression que c'est facile, en fait. Il n'y a pas de problème. Si elle est belle, elle est intelligente, elle est forte, tout va bien pour elle.
Et là, dans le meilleur des capitalismes possible.
Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucun problème. Ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est vrai que j'ai gardé un petit peu tous les romans où ça coince, où ça ne se passe pas bien, où l'héroïne, elle en bave, où ce n'est pas simple pour elle. Donc, ça donne des profils aussi un peu particuliers quand même. Et puis, c'est vrai, quand tu as une héroïne qui fait l'éloge de la police et qui trouve que les flics sont des super-héros, bah, moi, j'avais du mal quand même. J'avais du mal, donc c'était difficile. Ou il y a certains romans, c'est vrai, qui vont faire l'apologie de la peine de mort. Bon, ça me gênait, j'ai pas pu garder des choses comme ça. Donc effectivement, il y a un choix au départ qui est vraiment guidé par mes idées, mes valeurs.
Parce que tu es anarchiste aussi.
Donc on trouve beaucoup quand même de personnages qui ont un problème avec le pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Voilà.
Alors, tu dis dans une très bonne interview... qui a été donnée au magazine La Presse canadien, une interview de Leïla Malouf. Tu dis, tu expliques que les héroïnes peuvent vivre en couple, elles peuvent être avec une femme, elles sont parfois deux femmes, et qu'elles peuvent avoir des enfants. Ça, tu ne l'as pas dit dans... Attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est des choses qu'on voit de plus en plus dans le polar.
Il y a une évolution, effectivement. Quand dans les années 70-80, les premiers personnages de femmes héroïnes de polar, souvent, sont calqués un peu, sont sur le modèle du détective dur à cuire, qui est un solitaire, il est fort, il se bat contre le monde entier, tout seul. Et c'était d'autant plus important pour une femme d'être seule que souvent, lorsqu'on est en couple, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que le partage des tâches n'est pas en sa faveur. Et elle a personne, contrairement au détective masculin qui rentre chez lui, qui va trouver sa femme, qui lui fait à manger, qui l'aide dans ses, parfois dans ses enquêtes, qui s'occupe des enfants. Pour elle, ça ne se passe pas comme ça, bizarrement. Donc, on a beaucoup de personnages célibataire en fait, et qui refuse sciemment les aventures sentimentales ou en tout cas d'être en couple, parce que pour elle c'est un piège. Et puis une fois que ce personnage est bien installé, en fait il y a une évolution, et puis il y a certains personnages qui, comme dans la vie réelle en fait, se disent bon bah c'est bien, moi j'ai un super boulot, ça me passionne, mais j'ai envie aussi d'avoir une vie de couple, et pourquoi pas, j'ai aussi envie d'avoir des enfants. Et là on voit une revendication des héroïnes pour, elles sont en couple mais elles veulent pas prendre en charge tout le travail domestique. Elles veulent pas rester forcément à la maison une fois qu'elles ont accouché. Elles veulent tout de suite aller bosser. Est-ce que leur mari va être d'accord ou pas? On voit évidemment de plus en plus de personnages de lesbiennes. Mais voilà. Parce que pendant longtemps aussi, ça reflète l'évolution de la société. Donc j'ai certaines détectives qui, dans les années 90 encore, ont du mal à faire leur coming out au sein de la police, j'entends. Et parce que c'est difficile à dire, parce que c'est mal vu, etc. Maintenant, de plus en plus, évidemment, ça devient de moins en moins une question. La question qui se pose maintenant pour les héroïnes lesbiennes, c'est est-ce qu'on va avoir des enfants ? Voilà. Donc c'est intéressant de voir cette évolution. J'ai trouvé que c'était vraiment, pour moi, le polar, c'est un miroir de la société. Ça reflète vraiment la société, toutes ces évolutions. Et c'est pas... Voilà, on voit aussi un premier détective transgenre. Enfin, on en voit plusieurs, mais il y en a un que je cite. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de le citer.
Et pourquoi tu as
hésité ? Pourquoi j'ai hésité ? Parce qu'au début, j'ai décidé de ne prendre que des héroïnes, donc des femmes. Ah oui. Et lui est devenu un homme, et je pense qu'il serait très furieux que je le classe, que je le réassigne à son sexe biologique. Mais voilà, je m'en suis excusée auprès de lui dans la préface, parce que ce qui m'a intéressée, en fait, c'est au-delà de cette question, le sexe biologique m'intéresse peu, en fait. Mais... justement, ce qui m'intéresse, c'est ce que font des femmes avec cette assignation à la naissance. Et ensuite, quoi. Et ensuite, comment on fait pour ne pas être piégé là-dedans, pour ne pas être piégé dans cette condition féminine, dans ces stéréotypes, dans ce rôle. Et comment on trouve des biais pour s'en échapper. Comment on se libère de ça. Et il y a plusieurs moyens de faire, c'est ce que j'ai voulu montrer. Donc certaines vont... essayer d'agir comme des hommes, d'autres vont se battre pour pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire et qu'on leur interdit. Et lui a voulu, ce détective transgenre qui s'appelle Couplan, qui est un détective suédois, a voulu, a eu besoin à un moment de devenir un homme. Donc voilà, je l'ai inclus dans ce. J'avais vraiment envie de parler de lui. Je vais vous citer le. Je suis en train de. C'est Sarah Lövestam. Sarah Lövestam, donc une Suédoise, qui a inventé ce magnifique personnage. Et alors, en plus d'être transgenre, c'est un sans-papier aussi. Voilà, c'est un sans-papier. Et il y a plusieurs volumes qui racontent ses aventures en Suède. Au début, il est complètement dans l'illégalité. Et il n'a pas d'argent, il doit se cacher, et en plus, il doit trouver de l'argent pour faire sa transition. Et le moyen qu'il trouve pour subvivre, c'est de devenir enquêteur. Voilà, c'est absolument passionnant.
Merci.
Bon, eh bien, on va peut-être écouter le premier morceau de musique que nous a choisi Caroline, si Jean-Mi veut bien nous le passer.
Thank you. catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça, c'est de la petite guerre. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vient ici, il sera servi. C'est moi de la bombe, casquette. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça, j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux d'en haut. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. La gueule en or et les deux pieds. J'ai les pieds en dur comme un échalot. Le grand décor et je crache à cause bord. Je vois du gros rouge qui doge. C'est moi de la bombe, casquette. Affranchi dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement. Bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom m'a dit le commissaire au quart. Je lui dis et toi, faut pas le savoir. C'est moi de la bonne casquette. Voyez mes gros biscottos costauds. Un exagéré.
Alors, le disque qu'on vient d'entendre, tu peux nous dire un peu plus sur ce disque-là ?
Non, ce qui m'a plu, c'est simplement les paroles, en fait. C'est vrai que je retrouve un petit peu cette volonté d'en découdre et puis voilà, de se sentir puissante. C'est quelque chose que je retrouve chez mes personnages. Et d'ailleurs, là, je suis obligée de citer l'une d'entre elles, qui travaille dans une casse et qui est justement une... mince, alors je ne retrouve plus son nom, évidemment. Au moment d'en parler, j'ai un trou. Ça va me revenir. Donc, c'est une bagarreuse. C'est une bagarreuse qui se bat, qui fait des combats de catch, hein, c'est son métier, qui n'a pas un sou, qui vient d'une famille d'accueil, qui a une enfance difficile, etc. Et elle vit dans une casse automobile. Alors, est-ce que François, toi qui as lu en détail, est-ce que tu retrouves son nom ?
Non, parce que là, je te faisais confiance.
Oui, bien sûr. Je vais la retrouver.
De me souvenir de.
Faut que je vous dise son nom comme ça, mais voilà.
Héroïne. C'est vrai.
Des fois, ça me. Non, mais j'ai mis mes petits papiers. Je l'ai dû la sélectionner. Puis au moment de chercher, évidemment, je la trouve pas. En tout cas, cette héroïne, elle sait se battre. Et elle n'arrête pas de dire voilà, quel plaisir elle a quand elle met un homme à terre et quand elle est toujours gagnante. Quoi qu'il lui arrive, elle s'en sort toujours. Et elle dit, ouais, il faut bien que c'est des avantages d'être grande et moche. Bah, au moins, moi, je sais me battre. Et c'est pas rien. Voilà. Et il y en a plein des héroïnes comme ça. C'est-à-dire que un des thèmes qui m'a plu aussi, c'est le thème de l'autodéfense. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour les protéger.
En m'immergeant dans ton livre... j'emploie le mot batifoler parce qu'on peut aller en avant, en arrière, reprendre, on peut se promener dedans. C'est ça qui est bien, puisqu'il y a 101 histoires différentes.
François, j'ai retrouvé son nom. Hein, je le cite quand même pour les lecteurs qui sont intéressés, lecteurs et lectrices intéressés. Eva Willy, c'est une Anglaise et c'est un personnage créé par Lisa Cody dans les années 90. Voilà, catcheuse amatrice. Petite citation peut-être. Alors ça me permet justement, tu as dit qu'on pouvait butiner, hein, le but c'est pas un livre, le but c'est pas de le lire du début à la fin, c'est vraiment comme un répertoire, un index de plusieurs enquêtrices, donc c'est vraiment pour les faire connaître. Et j'ai essayé de parler d'elles comme je parlerais un peu d'amis, de personnages réels en fait, comme si je faisais une petite analyse sociologique sur ces personnages, donc en essayant de voir à chaque fois quels sont leurs goûts, quelles sont des choses très basiques, hein, qu'est-ce qu'elles aiment boire si on les invitait chez nous, qu'est-ce qu'il faudrait leur offrir à boire, leurs préférences sexuelles par exemple, si elles en ont, est-ce qu'elles ont un animal de compagnie, voilà, toutes des choses comme ça, et puis évidemment leur métier, ce qu'elles font, leur passion, leur arme souvent, puisque c'est un élément important. Donc, c'est comme si je faisais une petite photographie. Et à chaque fois, j'ai choisi aussi de leur laisser la parole. J'ai choisi une citation pour chacune. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que je trouve que parfois, en quelques lignes, dans une citation, on a quand même un petit aperçu, quoi. Et là, pour Eva Willy, la catcheuse, j'en ai mis deux. Laissez-moi vous dire encore une chose. Si vous voulez qu'on vous respecte, éliminez toutes vos faiblesses. Voilà, citation d'Eva Willy.
Alors, donc, en butinant dans ton livre, je me suis amusé à relever des structures communes. Alors ça, tu vas me dire que c'est un défaut des gens qui ont fait un peu des études dans les années 70-80, parce que le structuralisme, c'était un mouvement qui marquait les étudiantes et les étudiants, et qui recherchait des structures pour expliquer et comprendre toute chose. Donc j'ai sacrifié à cette façon de penser, bien que je sois tout à fait favorable à mes amis wokistes et intersectionnels, dont les idées sont elles aussi très intéressantes. Bon, alors, j'ai remarqué un truc, c'est qu'elles sont toutes féministes, hein, et elles sont toutes passionnées par leur travail d'enquêtrice. Ça, il n'y a pas d'exception.
Oui, mais c'est un peu, ça fait partie aussi de mes critères de choix. Tu vois, j'ai sélectionné les féministes, et une enquêtrice qui ne serait pas passionnée par son boulot, elle irait pas très loin. Hein. C'est comme les hommes, les enquêteurs masculins, t'en connais, toi, qui sont pas passionnés par leur boulot et qui attendent la retraite.
Hein. Ah, il y a toutes sortes de gens dans l'univers, tu sais.
Ouais, mais enfin bon, ceux qui marchent le mieux, c'est quand même des doudingues qui ont une passion et puis qui vont jusqu'au bout.
Oh, dans le feuilleton Kojak, il y a Stavros qui apprend ses plans tout le temps. Lui, il attend la retraite.
D'accord. Alors, disons que j'avais envie d'avoir un peu des rôles modèles. Alors, j'ai cherché peut-être un peu des personnages. Alors, c'est vrai qu'elles sont, complètement prises par leur boulot. Et elles le disent, parfois, c'est des mordus du boulot. Elles n'arrivent pas à décrocher. Elles ne peuvent pas faire autrement. Je viens de finir le dernier roman de Michael Connelly, qui est un auteur américain que j'adore, et puis qui a fait, après, il a un héros masculin qui est Harry Bosch, et dernièrement, depuis quelques années, il a une nouvelle héroïne, qui est un personnage féminin, qui s'appelle Renée Ballard. Et cette femme, elle travaille la nuit, elle travaille au quart de nuit pour une raison de punition administrative. Et malgré tout, quand elle doit lâcher une affaire, parce qu'elle doit normalement, que s'il est arrivé un meurtre ou quelque chose pendant la nuit, les enquêteurs de nuit remettent l'affaire aux enquêteurs de jour. Et elle, parfois, ça lui va pas, et elle continue pendant le jour, au lieu de dormir, à travailler sur ses affaires. Et elle s'arrête jamais. Et dans tous les volumes, elle est en manque de sommeil, elle est sur le point de tomber par terre, mais il faut qu'elle continue, elle peut pas s'arrêter, parce qu'il faut que justice soit faite. Donc il y a cet idéal de la justice qui les pousse à aller toujours plus loin.
Mais c'est un invariant qu'on trouve aussi chez les héros mâles de la littérature policière américaine, surtout, où c'est impensif, c'est que l'épouse ou la compagne du héros lui reproche inlassablement de sacrifier sa vie et elle, en passant, à son boulot.
Donc, oui.
Les femmes se sont emparées, à travers les héroïnes de polar, de ce...
Oui, c'est ça.
De cette façon très, très précise de vivre.
Oui, parce qu'on pourrait avoir, et on a ça dans certains cas, hein, l'héroïne qui, elle travaille, mais à un moment, elle tombe amoureuse. Alors, l'amour est plus fort que tout. Ou à un moment, elle a un enfant, alors elle va s'arrêter pour s'occuper de tes enfants. C'est normal, c'est une femme. Bah non, non, c'est pas obligé de se passer comme ça. Et là, les héroïnes que j'ai, ben, elles sont tellement passionnées par leur travail. Il y en a, elles viennent d'accoucher, et puis tout de suite, il faut qu'elles s'en aillent en train de traquer le serial killer, là, qui est toujours dans les rues. Et c'est normal. Et elles le font pour leur enfant qui va grandir dans ce monde-là aussi. Et il faut qu'elles s'en occupent. Ça repose sur elles. Donc j'ai bien aimé, oui, c'est des personnages qui sont assez, assez forts, je trouve. Voilà, alors, il y en a, par contre, ça devient complètement pathologique. Hein. Il y en a eu la russe Anastasia Kamenskaya, qui est un personnage de l'auteur russe Marinina. Elle, c'est une droguée du travail. Elle ne peut pas imaginer de faire autre chose. Et heureusement, alors là, c'est un coup de force quand même, elle a un amoureux qui va devenir son mari, qui comprend très bien ça et qui, du coup, s'occupe de la maison, s'occupe de lui faire à manger, parce que sinon, c'est pas tenable. Donc, lui, ça lui va et il l'admet très, très bien. Et c'est le genre de d'enquêtrice qui prend jamais de vacances, qui ne se repose absolument jamais. Bon, voilà. C'est plutôt ce genre-là, on va dire.
Parallèlement à ce que tu viens de dire, on peut remarquer que la plupart des héroïnes, et surtout des autrices, qui les anime, il y a un certain sens de l'humour. Alors des fois, c'est l'héroïne qui fait de l'humour, mais en fait, l'autrice est derrière. Par exemple, chez Élise Andrioli, l'autrice l'a décrit ainsi, c'est un tas de viande posé sur un fauteuil.
Alors, il faut la présenter quand même. Ça, c'est un personnage qui est absolument extraordinaire.
Oui, ça, c'est bon.
Et c'est elle qui est... Je commence avec elle, parce qu'elle est dans l'ordre alphabétique, c'est la première.
Ah oui, c'est la première. Ouais.
C'est une enquêtrice tétraplégique, muette et aveugle. Elle a été victime d'un attentat, et elle est dans un fauteuil. Elle ne peut ni entendre, ni voir... Et la seule façon qu'elle a de communiquer avec son entourage, c'est en faisant des signes, en écrivant avec sa main. Et au bout de quelques volumes, elle a une sorte d'ordinateur qui lui permet de communiquer un peu plus facilement, avec une synthèse vocale. C'est un personnage de Brigitte Aubert, qui est une super écrivaine française, absolument extraordinaire. Et donc, elle a 3-4 volumes avec ce personnage-là. Et effectivement, il y a énormément d'autodérision. Et heureusement, hein, sinon, ça serait sinistre.
Alors, il y a excuse-moi de t'interrompre, ouais. Claire de Witte, une des héroïnes, qui déclare tout de go, on ne devient pas détective, on le naît. Alors ça, c'est vraiment le super clin d'œil. Hein?
Oui, oui, oui. Alors Claire de Witte, c'est aussi. Alors je cite pour celles et ceux qui voudraient se référer à l'original, c'est Sarah Grahn, une auteure américaine. Première apparition dans un roman qui s'appelle La Ville des Morts, et c'est un personnage complètement fascinant. Alors il y a beaucoup aussi là aussi d'humour, d'autodérision. Claire, elle fait partie d'une secte, mais c'est pas vraiment une secte, mais enfin d'un groupe extrêmement confidentiel, d'une tradition d'enquêteurs. Elle a son mentor, beaucoup d'enquêteurs sont formés par quelqu'un, voilà. Elle, son mentor, c'est un homme qui s'appelle Silette. Et donc, on nous raconte dans le roman toute son histoire et d'où il vient, etc., qui a écrit un livre qui s'appelle Détection. Et lui, il pense, en fait, l'enquête s'apparente dans ses romans à une sorte de quête existentielle. Donc, tu as cité la fameuse maxime silétienne, puisqu'il a formé comme des disciples, en fait, on peut appeler ça comme ça. On ne devient pas détective, on le naît. Mais plus loin aussi, il dit la connaissance intérieure du détective l'emporte sur toute pièce à conviction, tout indice, toute hypothèse rationnelle. Si nous ne plaçons pas toujours et sans cesse au-dessus du reste, il ne sert à rien de continuer ni à enquêter, ni à vivre. En fait, voilà, c'est un petit peu difficile à résumer, mais disons que Claire de Witte, elle part faire ses enquêtes complètement toute seule, la plupart du temps, avec des méthodes ésotériques. Alors, elle va lire elle va chercher des preuves dans les feuilles de thé, dans des choses comme ça, avec son intuition complètement revendiquée. Et puis en plus, elle prend pas mal de drogue aussi. Elle est
il y a beaucoup de personnages d'héroïnes qui sont qui versent dans l'ésotérisme ou la superstition.
Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes.
Il y en a une, elle est bouddhiste et elle fait ses enquêtes avec un pendule.
Ouais, ça bon, ça j'ai pas résisté. C'est un très très beau personnage de Delzong. Il y a aussi une auteure extraordinaire et je trouvais ça. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'ésotérisme. Parce que pendant très longtemps, il y a cette suspicion que les femmes n'ont pas accès à la pensée rationnelle et que en fait elles se laissent gouverner par leur intuition, leurs émotions, hein, et que ça c'est pas du tout viril et c'est pas du tout intelligent. Et bien sûr que c'est intéressant d'aller un petit peu contre ces idées reçues, parce que dans toute enquête, il y a beaucoup, et que ce soit chez les hommes ou les femmes, hein, il y a une part de rationnel et il y a beaucoup d'intuition aussi. Hein, et même chez les auteurs hommes, ils le disent tous. Donc c'est intéressant de voir ça, et surtout du point de vue d'une femme. Et donc pendant longtemps, les femmes ont revendiqué cet accès au rationnel, en disant oui, c'est pas parce que je suis une femme que je vais me laisser distraire, moi c'est l'épreuve. Et il y en a plein qui revendiquent ça, l'épreuve, la méthode traditionnelle, on enquête, on se laisse pas balader, on se laisse pas distraire par ce qu'on ressent, on veut des faits. Et puis une fois que c'est acquis que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes et aussi rationnelles, il y en a qui peuvent aller un peu ailleurs, et qui peuvent dire, ben non, mais il y a aussi beaucoup d'irrationnel parfois dans ce qu'on voit. Et ça peut nous aider d'envisager cet irrationnel. Et donc c'est ce que fait Claire de Witt, c'est ce que fait cette détective au pendule.
Comment Claire de Witt, tu l'as définie, anarchiste soufiste.
Oui, enfin c'est un petit peu comme ça qu'elle apparaît, effectivement.
Et puis il y a aussi, alors là...
Et il y a Redondo qui est très connu pour ça. Dolores Redondo, qui est une écrivaine catalane très très connue.
Elle a écrit.
Pardon, basque, de n'importe quoi.
Elle a,
d'après sa tante, elle a un don pour. Elle peut lire les cartes, je crois.
Ouais, je viens lever celle-là.
Et là, tout le thème de ces aventures, c'est vraiment le lien avec l'irrationnel, avec les croyances ancestrales et comment ça peut donner lieu à des meurtres, etc. Donc ça, c'est aussi un thème très 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 important, quoi.
Un peu comme Edith Gladuc, qui est d'origine inuite et qui de facto croit au chamanisme.
Oui, c'est vrai, oui. Oui. Donc, j'ai pris le parti d'aller chercher des héroïnes aussi souvent atypiques, hein, pour changer un petit peu
des
policières américaines et qui font toujours la même chose. Évidemment, ce qui m'intéressait, c'était le pas de côté pour montrer la diversité aussi.
On le verra plus loin. En fait, elles ont un autre point commun, c'est qu'elles sont atypiques.
Mais oui, on va peut-être pas commencer par là. Mais c'est vrai.
Alors, il y a un trait aussi qui revient très souvent, c'est qu'elles lèvent le coude, ces dames.
Ouais. Alors, je me suis posé la question quand même, j'en ai plein d'alcooliques, j'en ai plein de toxicos quand même, comment ça se fait? Et en fait, je crois que la réponse, elle est assez simple. Alors d'une part, il y a tous ces clichés de l'enquêteur dur à cuire qui aime bien boire. Hein, oui. Franchement, on ne voit pas un enquêteur...
Alors, il y a un ancêtre d'une série, qui est même la première série, qui a bercé notre enfance, à nous les féministes, qui est Cagné et Lacé. Mmh. Et Cagné et Lacé, l'une des deux est même alcoolique par son père, qui est lui-même alcoolique.
Oui.
Donc,
il y a tout ce folklore un petit peu, voilà. De l'enquêteur dur à cuire. Il ne va pas aller manger sa petite salade avec son verre d'eau. Ça ne cadre pas. Donc souvent, il boit un peu trop. Et donc, je pense que c'était un peu un truc des premières enquêtrices, un peu... Pour se montrer à la hauteur, il faut boire aussi. Parce qu'on est sur le terrain des mecs. Et les mecs, ils boivent. Et on va leur montrer qu'on tient l'alcool comme eux et qu'on peut aussi se battre à armes égales, hein, ça fait partie du truc, et qu'on peut aussi tirer comme eux. Mais c'est quelque chose dont on a pas mal parlé dans la société. Hein. Récemment, il y a eu plusieurs, l'année dernière ou il y a deux ans, livres de femmes qui sont sorties, d'anciennes alcooliques, qui racontent comment elles ont réussi à se désintoxiquer, et comment l'alcool était pour elles aussi une façon de supporter le sexisme ou d'être de se mesurer aux hommes, en fait. Mmh. Et elles se sentaient plus fortes, plus à l'aise en société quand elles avaient bu. Donc là, c'est vraiment ce thème de l'alcool, il est intéressant, parce que même là, on voit que hommes et femmes, on n'est pas égal face à l'alcool.
Non.
Et qu'on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes conditionnements, et que boire, ça n'a pas les mêmes... Enfin, ça n'a pas les mêmes, le même rôle, en fait, dans un cas ou dans l'autre. Et donc, le fait qu'il y en ait beaucoup qui boivent, moi, je vois ça comme je m'approprie un des stéréotypes masculins, en fait. Je montre que, oui. Bah, voilà, pourquoi pas.
Alors, dans ce cas, on citera, pour finir, dans les stéréotypes, je m'approprie, l'excellent film de Cassavetes, Gloria, qui s'approprie le revolver et qui dessoude à tout va dans le film. Je conseille à toutes les héroïnes qui nous écoutent et tous les héros qui nous écoutent, les auditeurs de Radio Libertaire, d'aller voir ce film. On peut le voir de temps en temps sur, dans le quartier latin, dans les salles. C'est Gloria de John Cassavetes et c'est Jenna Roland, son épouse de l'époque, qui tient le rôle principal.
Mais alors, pour terminer aussi sur l'action de l'alcool et des drogues...
Parce qu'il
n'y
a pas que l'alcool, il y a les drogues.
Non, il y a les drogues. Ouais. Je pense aussi que la plupart des héroïnes que j'ai citées, parce qu'elles sont confrontées à beaucoup de choses très dures et qu'elles ne sont pas à l'aise dans leur rôle et que c'est compliqué pour elles et que tout n'est pas simple, il y a le recours à ça, aux drogues, à l'alcool, et c'est le signe d'un mal-être, et je pense que ça dit ça aussi, quoi.
Autre trait remarquable, ces dames sont très souvent célibataires, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas natalistes. Alors, l'enfant roi n'est pas dans leur préoccupation.
Alors, ça, là encore, ça change, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me semble que c'était le cas pendant très longtemps, où on avait ce refus justement d'avoir une aventure, un engagement et a fortiori un enfant.
Ah, mais moi je ne mets pas sur le même plan un engagement et avoir un enfant.
Bah, disons que pour une femme détective qui n'a pas d'horaire et qui est prise tout le temps par son boulot, c'est la même impossibilité. Hein,
que, oui.
Y en a une à un moment... Carole Jordan, une américaine, qui dit « Mais comment je ferai pour rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse, à part un pompier ou un autre flic comme moi, qui est-ce qui voudra de moi ? Et puis de toute façon, on ne se croiserait jamais. » Donc il y a une difficulté de base.
Certaines ont, parmi les héroïnes que tu évoques, ont trouvé une solution. C'est des aventures très, très courtes. Et nombreuses, mais courtes.
Oui, alors voilà, ça ne veut pas dire qu'elle renonce à la sexualité. Oui. Hein. Ah, Il y en a qui... Alors, c'est un petit peu comme l'alcool. Avoir des aventures nombreuses et coucher avec les premiers venus, c'est aussi, pendant très longtemps, quelque chose de mec. Et se revendiquer ça pour les femmes en disant « Oui, moi, je ne m'attache pas. » Et puis, il y en a une qui dit, avec beaucoup d'humour, « Les mecs, moi, on me reproche toujours, on me dit que je les préfère de dos. » Mais c'est vrai, moi, j'aime bien quand ils s'en vont, quoi.
C'est
ce
bon
que
ça.
Je préfère, c'est leur dos. Voilà, mais c'est vraiment, il y a ce refus de s'attacher.
C'est quelle héroïne qui dit ça? C'est trop bien.
Ah bah, il faut
lire Anna Wolf. Ouais, il faut lire, je ne vais pas tout vous révéler, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Hein.
Moi, je l'ai noté
donc,
quelque part.
Donc, si vous voulez la retrouver, voilà, il faut acheter le livre.
Voilà. Alors,
pas fini. Ce que je voulais dire, c'est non, parce que je fais des digressions. Le rapport à la sexualité. Oui, non, je pense que en fait, il y en a de plus en plus maintenant qui veulent un enfant, qui ont des enfants et qui revendiquent. Ben moi, je veux bosser, mais je veux aussi une famille. Je veux aussi avoir des enfants. Et on en trouve quand même de plus en plus. Voilà.
Je crois.
Bon, après, effectivement, c'est peut-être quand même une minorité dans celle que je présente, c'est possible.
Alors, tu avais évoqué très brièvement les pratiques sexuelles variées et atypiques des héroïnes. Alors, veux-tu y revenir un peu ou...
Bon, je ne sais pas quoi dire. Hein.
Bon, d'accord.
À part que, voilà, il y en
tout
a des hétéros,
livre.
Il y en a des lesbiennes.
Alors, le livre, il est vendu...
Qu'est-ce que je dise de plus ?
Sur la table des féministes... La table des féministes, des nouvelles sorties. Il y a une table qui est réservée à ça, à la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e.
Voilà.
Merci.
Les trois métros.
Il fallait le dire.
Voilà, Fille du Calvaire et République. C'est la librairie aux trois métros.
Alors, il y a un autre invariant, si on peut dire. C'est la peur fascination. J'emploie ce terme peur fascination parce que c'est le contraire, mais c'est en même temps très souvent un peu la même chose. Ces dames ont une peur fascination du pouvoir, c'est-à-dire qu'en même temps, comme elles ont été élevées par des hommes comme des femmes, elles ont une espèce de mal à s'imposer, à prendre du pouvoir, à prendre de l'allant. Et en même temps, les héroïnes dont tu parles sont fascinées par le pouvoir. Et le symbole de ce pouvoir, c'est pas seulement celui-là, mais très souvent, ce sont les armes à feu ou les armes.
Alors, je ne poserai pas la question comme tu le fais exactement. Est-ce que je peux revenir un peu sur cette question du pouvoir? Parce que pour moi, elle est vraiment centrale. D'un point de vue personnel, là, je crois que c'est... En tant qu'anarchiste, cette question du pouvoir, elle m'a beaucoup interrogée. Évidemment que je déteste le pouvoir, je pense avec Louise Michel que le pouvoir est maudit, c'est pas la question. Je me suis rendu compte en militant dans les rangs anarchistes que femmes et hommes, on n'était pas à égalité face au pouvoir. Et ça, bon, ça a changé hein, beaucoup depuis 20 ans, mais voilà, quand je me souviens de certaines manifestations, avec Mariama, on parlait des Black Blocs tout à l'heure, on était très peu de femmes à aller face au canon à eau avec les Black Blocs.
Tout à fait.
C'était vraiment, je me suis retrouvée à un moment, on était trois, quoi, et puis il n'y avait que des mecs. Et puis j'avais l'impression de ne pas être à ma place aussi, parce que je n'étais pas formée pour ça. J'avais une éducation où les femmes ne se battent pas. Jamais je m'étais bagarrée dans la cour de l'école, ben non, ça ne se faisait pas. J'avais aucune copine qui se bagarrait. Et donc, j'étais un peu paniquée quand ça m'est arrivé. Là, la violence, je n'étais pas préparée à cette violence. Alors, François, tu vas me dire très justement qu'il y a beaucoup de mecs qui n'aiment pas se bagarrer, qui ne sont pas préparés à ça. On est tout à fait d'accord. Et plein de nanas qui sont plus bagarreuses que les mecs. N'empêche que, regarde les chiffres, regarde les statistiques, il y a quand même plus de mecs qui seront plus à l'aise dans ces services d'ordre, ces atmosphères virilistes ou je ne sais pas quoi. Parce que toute la société aussi
les éduque,
ces modèles, les éduque comme ça, où ils ont l'impression que ça pourrait être leur rôle. Bon, pour les femmes, c'était en tout cas à mon époque, parce que ça change énormément, c'était différent. Moi, j'ai jamais eu accès à des trucs de self-défense, d'autodéfense féministe. Jamais, ça fallait vraiment les chercher et c'était pas simple. Il y en avait pas beaucoup. En tout cas, j'ai du mal à en trouver. Et donc, si tu veux, voilà, j'avais conscience que la question ne se posait pas de la même façon. Et c'est ce qui m'a intriguée quand j'ai lu le parcours de ces femmes qui ont une arme. On va dire, ouais, elles ont une arme comme tous les flics. Ouais, sauf que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas d'armes. Pendant des siècles, on leur a interdit d'avoir une arme. Pendant la Révolution, elles n'avaient pas le droit de défendre la patrie. Donc, elles n'avaient pas le droit d'être citoyennes non plus. Et ça, c'est quand même super intéressant. Je me suis intéressée aussi au service militaire. Les premières femmes qui se sont battues pour que les femmes puissent faire leur service militaire, c'était des pacifistes féministes. Parce que, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient, nous on est contre la guerre, on est contre ce système. Mais pour pouvoir le refuser, pour pouvoir s'y opposer, il faudrait qu'on y ait accès. Parce que là, on n'a même pas accès.
C'est comme disait Olympe de Gouges, on a le droit de monter à l'échafaud, on devrait avoir le droit de vote.
Mais voilà. Donc, pour pouvoir, en tant qu'anarche, je suis très contente de ne pas voter. Mais pour pouvoir avoir le droit de ne pas voter, je suis contente d'avoir le droit de vote.
Tout à fait.
Et donc, voilà, je n'ai pas envie d'être dans l'armée, mais j'ai envie que les femmes puissent accéder à l'armée pour pouvoir le refuser. Sinon, c'est de l'impuissance. Ça veut dire quoi en tant que femme? Dire « Ah, je suis contre l'armée. Ah, moi, j'aimerais pas être CRS. » Ouais, mais si personne me le propose, si c'est interdit ou si c'est très compliqué, c'est pas un choix, c'est pas une option. Donc, voilà, je me suis posé cette question et c'est là que j'en reviens à tes questions sur le pouvoir. Je pense que ces femmes, elles ont envie d'avoir du pouvoir. Elles ont envie d'avoir du pouvoir parce qu'elles ont envie d'avoir, tout comme les mecs, d'avoir le choix. Et donc, j'ai beaucoup de détectives qui disent « Mais moi, j'ai pas de problème avec le pouvoir. Et même, j'en abusais. Et pourquoi j'en abuserais pas ?» Et ça, pour moi, c'est une revendication importante. Et il y en a aussi qui s'en méfient, parce qu'il y en a qui savent aussi, en tant que opprimés,
en tant que victimes
du patriarcat, on sait le mal que fait le pouvoir. Donc, il y en a quelques-unes qui savent très, très bien aussi qu'il faut s'en méfier et qu'elles, elles veulent pas devenir à leur tour oppresseurs. Bon, il y a de tout, si tu veux. Mais qu'on puisse justement voir cette question du pouvoir d'un point de vue féministe, moi, c'est ce qui m'a intéressée. Parce que les rôles ne sont pas
égaux.
C'est pas la même chose d'avoir du pouvoir quand on est un mec et d'avoir du pouvoir quand on est une nana. c'est pas la même bataille, c'est pas le même combat. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et l'arme, comme tu dis, on est dans la fiction, hein, évidemment, on parle de roman ici. L'arme, souvent, bah, c'est quoi ? C'est un symbole phallique, c'est le symbole de pouvoir. C'est ce qui fait que, là, elles sont, et c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre « Armes égales ». Avec une arme, il n'y a pas question de « j'ai plus de force que toi, je vais t'écraser, t'es moins balèze
bah, ». C'est non. Comme Gloria dans le film de Cassavetes, « on dessoude, point barre ».
Voilà. Et ça, souvent, alors, il y a un personnage, c'est Junko Go, c'est un personnage oui. d'Anne Rambach, qui est une autrice française que j'adore absolument. Tu et Junko Go, elle est moitié japonaise, moitié française.
Desert Eagle 50.
Mais la moitié du bouquin, c'est une déclaration d'amour à ses armes qu'elle a. Alors l'arme de service, à un moment, elle doit en prendre une autre. Elle est complètement obsédée, elle le dit elle-même, hein, que c'est une malade, que c'est pathologique. Elle est obsédée par son arme. Mais j'ai trouvé ça, c'est d'une grande poésie déjà quand on le lit. Et on voit bien qu'on est dans le symbolique là. À un moment, elle regarde son collègue et elle essaye de voir qui a la plus grosse. Chez elle, c'est constant, c'est ce qui lui permet d'être, de se battre et d'être la plus forte comme ses collègues masculins, quoi. Et à un moment, elle se bat d'ailleurs avec une criminelle, une femme. Toutes les deux ont leur arme et ça devient un duel. Mais ça, on touche au sublime là, parce que là, c'est vraiment l'énergie vitale en fait de l'une et de l'autre qui communique à travers leurs armes et on a l'impression que ça touche au sublime.
Ben justement, le deuxième disque que tu nous as proposé. A trait au bruit des armes à feu. Et Jean-Mi va nous le passer.
Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound. My baby shot bang bang, he shot me down to bang bang. I hit the ground bang bang, that awful sound. My baby shot me down. I was five and he was six. We rode on a horse made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang. Shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound. My baby shut me down. The seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. Laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Oh, you used to shoot. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. I used to shoot you down. These days sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Oh, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound. My baby shot, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de Pat Cartier qui aujourd'hui reçoit Caroline Granier pour son dernier livre à propos des héroïnes de polar. Tu as émis l'envie de revenir sur la violence et les armes.
Non, c'était juste pour dire que je suis pas en train de faire l'apologie des armes, évidemment, et que voilà, je voulais redire que dans ces romans, vraiment, l'arme, c'est quelque chose de vraiment symbolique. On est dans un roman policier, hein, y a des, voilà, donc les femmes, elles se battent avec leurs armes, mais on voit bien que ça va beaucoup plus loin et que c'est pour elles juste cette façon, c'est un truc d'empowerment, quoi, d'avoir vraiment plus de puissance. Et que leur arme, parfois, devient vraiment importante pour elles, pour ça, quoi. Voilà.
Alors, on continue notre petit voyage à travers les structures de ces dames. Alors, elles sont... Alors, moi, je trouve ça caractéristique. Elles sont toutes hors normes. Alors, socialement, psychologiquement et physiquement. Alors, on a évoqué tout à l'heure des personnes qui sont très, très lourdement handicapées. Mais y a le handicap ou le travers physique ou psychologique est hyper présent dans ces livres.
Alors, ça aussi, c'est un choix que j'ai fait. Hein, faut être conscient de ça. Oui. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, et j'en ai quelques-unes, hein, des super flics qui sont très, très belles, qui sont bien intégrées. Et c'est un personnage qu'on voit beaucoup aussi dans les romans américains. Mmh. Mais et je pense que c'était important qu'on ait ces figures de superwoman parce que inattaquable, super forte, il peut rien leur arriver, elles sont parfaites. Il fallait à un moment qu'on ait des héroïnes qui soient le pendant des héros masculins. Mais une fois que ce personnage est bien installé, on peut se permettre d'avoir des anti-héroïnes dans un deuxième temps. Et les anti-héroïnes, c'est encore plus intéressant parce que du coup, on peut s'identifier. C'est ce que tu disais, Mariama, c'est un peu Madame Tout-le-Monde, quoi.
Tout à fait.
Donc, c'est...
Elles ont des problèmes de poids.
Mais voilà.
Elles doivent, de garde d'enfants. De...
Et puis, il y en a qui ont des maladies. Alors, la maladie de Ménière, qui est quand même assez rare.
Alors, dis-nous ce que c'est parce que...
La maladie de Ménière, c'est des vertiges... Des vertiges et des problèmes de migraines, etc. Des nausées, je crois. Et donc, c'est... alors pareil, là, je n'ai pas le nom sous... qui est-ce qui a la maladie de Ménière? C'est l'Italienne. C'est l'Italienne, personnage...
Et c'est Marielle De Luca.
De Luca. Mariella De Luca. Et qui par ailleurs, alors ça l'empêche pas de boire et de bien faire son boulot. Mais voilà, c'est un petit handicap quand même. Il y a une enquêtrice qui est autiste aussi. Ça, c'est intéressant. Alors ça l'empêche de faire certaines choses, mais ça lui donne aussi une autre façon de fonctionner qui peut être très très utile dans son équipe. Qu'est-ce qu'on a comme...
Il y a une anorexique aussi.
Il y a une anorexique, il y en a...
Alors, Parker.
Voilà, il y en a qui ont aussi... Donc, ce n'est pas la majorité, hein, François, t'exagères un peu.
Non, mais j'ai dit, elles ont toutes.
Effectivement, moi, ça m'a... C'est-à-dire à que travers. Celle-ci, bah, ça m'a intéressée d'autant plus, quoi. Je me suis dit, tiens, elles sont femmes, ce qui déjà, pour moi, est un handicap dans leur milieu. Et en plus, souvent, elles cumulent avec d'autres difficultés. C'est intéressant.
Alors, psychologiquement aussi, il y a des personnages qui sont bien, bien tarabustés. Hein. Par exemple, Sandra Kahn, un vrai pitbull, cette femme.
Oui, non, mais ça, elle est tout
les
à barjots. Fait.
Qui dit j'aime les barjots.
Oui, oui. Enfin, c'est pas la pire.
Il y a une maladie de Crohn aussi. Il y a une. Cette Leona Lindbergh, elle est psychopathe carrément.
Alors, ça, c'est la seule qui est vraiment à part. Hein. Je l'ai mise là parce que c'est vraiment un personnage extraordinaire. C'est la méchante. Hein. C'est quelqu'un, on ne peut pas vraiment. On ne peut pas vraiment avoir de l'empathie pour elle. C'est un personnage, c'est...
Infect, quoi.
Voilà, c'est la méchante. Elle est, donc, elle est à moitié psychopathe, et pourtant, elle est dans la police, et elle s'en sort très, très bien. Hein. Tout le monde lui fait confiance. Et alors là, j'essaye de retrouver sa fiche, là, pour vous citer, pour vous donner une petite citation.
Tu n'insinues pas que pour être policier, il faut être psychopathe.
Pour moi, ça nous dit quelque chose, un petit peu. de la mode, des qualités attendues. Comment elle s'appelle? Tu peux me redire le nom parce que là, je ne la trouve plus.
C'est Leona Lindbergh.
Ça, c'est le nom...
Page 87.
T'es sûr? Merci, ouais. Merci à toi. Donc, pour les auditeurs auditrices, c'est une auteure suédoise qui s'appelle Jenny Rogneby. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et qui a créé ce personnage, donc c'est très récent. Hein, c'est le premier épisode en 2014. Ce personnage de policière à la brigade criminelle de Stockholm. Bon, elle a des circonstances atténuantes. Hein. Elle a eu un père très autoritaire qui l'a maltraitée. Bon, ça, on l'apprend un petit peu. Mais elle est absolument infecte. Elle a un mari qu'elle méprise absolument, deux enfants qu'elle a du mal à aimer parce que, comme elle dit, elle n'est pas trop faite pour être mère. C'est son fils qui a la maladie de Crohn, donc elle a besoin de beaucoup d'argent, mais elle joue, donc elle dilapide tout l'argent du ménage. Et alors après, elle est obligée du coup d'essayer de voler de l'argent dans des braquages, etc., en travestissant les preuves grâce à son statut de policière. Enfin, bref, c'est une manipulatrice, c'est une menteuse, on ne peut pas lui faire confiance, elle est absolument odieuse. Et c'est un personnage quand même très très intéressant. Voilà, donc le premier tome s'appelle « Les dés sont jetés », le deuxième « La fin justifie les moyens ». Et je vous cite la citation que j'ai choisie. Une grande partie de mon énergie était consacrée à refouler certains aspects de ma personnalité. Voilà, c'est un personnage qui est constamment en représentation pour masquer et qui n'est pas démasqué.
Elle n'est pas démasquée, non.
Elle n'est pas démasquée.
Bah, c'est comme le personnage, comment il s'appelle le tueur en série qu'on ne démasque pas.
Hannibal
Non, pas Hannibal, l'autre. Qui est légiste.
Tu parles d'une série là.
Oui.
Oui, moi je connais très très mal, hein, donc je peux pas t'aider là pour ça.
Oui, j'ai un trou. Ça va me revenir.
Parmi les enfants carabinés,
Dexter.
Il y a Jana Berzelius, qui est ancienne enfant soldat quand même.
Oui. Il y a des cas comme ça, effectivement, d'enfants. Entraînée à tuer, en fait, et ce qui fait d'elle une excellente... qui fait d'elle... Elle n'est pas policière, je dis n'importe quoi, mais elle est avocate.
Elle est orpheline aussi.
Oui, elle a
D'ailleurs,
été arrachée à ses parents.
Ça, c'est
histoire
un truc
traumatique.
Qui revient souvent dans les caractères des héroïnes. C'est une forme d'abandonnisme. C'est-à-dire, il y a toujours une faille parentale.
Alors ça, je me suis posé la question dans le premier livre aussi, parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes enquêtrices avaient un rapport... Alors, la faille parentale, moi, ce que j'avais remarqué, c'est un rapport dysfonctionnel, ou en tout cas de rejet ou de haine, avec la mère, et souvent une admiration du père. Pendant très longtemps, j'ai des héroïnes qui marchent dans les traces de leur père. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est leur père qui était...
Absent ou...
Non, qui était flic, qui était héros, qui était et leur mère finalement était souvent
effacée
ou
parce que la société
c'est la société qui voulait ça.
Voilà.
Et puis dans les années 80-90, et là ça change, on voit des filles qui marchent sur les traces de leur mère.
Voilà.
Parce que les mères ont ouvert la voie et elles peuvent être fières de leur mère et se revendiquer tout ce côté féminin qui n'est plus dévalué en fait.
Et ça on le voit bien dans le feuilleton Cagné et Lacé.
Ouais.
Voilà. Et dans Gloria, qu'est-ce que ça va être ?
Ça, c'est vraiment intéressant. Les filles, voilà, elles deviennent ces héroïnes. Elles deviennent non plus seulement filles de leur père, mais filles de leur mère. Mais il a fallu des luttes et il a fallu des combats pour ça, quoi.
Dans le même ordre d'idées aussi, le rôle des babouchkas, le rôle des grands-mères est assez prégnant.
C'est vrai.
Chez beaucoup d'héroïnes.
C'est vrai. Mais justement, ce rejet de la mère, pour certains, moi, je l'ai lu comme un rejet des rôles féminins traditionnels. C'est-à-dire, ce qu'elles rejettent parfois, c'est la vie qu'ont eu leur mère, et elles sont obligées d'en passer par là, dans la fiction, pour dire justement qu'elles veulent tracer des nouveaux chemins et aller vers de nouveaux rôles, quoi.
Mmh.
Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété.
Un refus d'effacement.
Oui, et puis souvent, les mères n'approuvent pas du tout leur nouveau choix de vie. Donc,
tout
les mères vont s'opposer. Non, tu peux pas être... Les mères sont souvent là. Alors c'est aussi. Je pense tout de suite à cette détective indienne, Simran Singh,
oui.
Voilà, qui elle a une mère un petit peu très très pro, très très envahissante. Ah oui, alors dans leur.
Ouais.
Alors elle est pas policière, elle est travailleuse sociale.
Ah oui.
Mais ce qu'elle adore, c'est mener des enquêtes et contre l'avis de sa mère, qui voudrait sans arrêt qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants. Elle reste célibataire et elle mène ses enquêtes et dans une extrême liberté, surtout.
Dans la société
surtout
indienne.
Dans la société indienne qu'elle dénonce au fil de toutes ses enquêtes. Donc ça, c'était intéressant aussi.
Alors, je vais changer de sujet un petit peu, tout en restant dedans quand même. À la fin du livre, tu fais une espèce de métaphore hardie en comparant l'évolution des polars à la création du monde en 7 jours.
Oui, non. Enfin,
alors, qu'est-ce qui t'a pris?
En fait, ça, c'était...
C'est un raccourci, voyons.
Oui, c'est un raccourci. J'ai repris l'intervention que j'avais faite lors d'un colloque et je devais parler un petit peu de l'évolution des auteurs et des polars, des féministes. Et en fait, c'est pas vraiment une évolution chronologique. On peut pas dire, ah, au début, il n'y avait pas d'héroïne, et puis il y en a eu, et puis etc. Bon, c'est pas si simple. N'empêche que j'ai vu quand même plusieurs étapes. C'est vrai que pendant très longtemps, il y avait très très peu d'héroïnes femmes dans les romans policiers. Et puis, il y a eu...
Miss Marple.
Déjà, il y a eu les criminels. Il y a eu... Oui, il y a eu Miss Marple. Mais les femmes étaient quand même cantonnées à...
Les victimes.
Alors souvent victimes, et même quand elles étaient détectives, à la non-violence. Mm. Hein, donc ça limitait aussi. Et puis, il y a eu de plus en plus, je trouve, de personnages de femmes criminelles. Mm. Et à partir du moment où le tabou de la violence est brisée, on reconnaît que oui, les femmes, comme les hommes, peuvent être violentes, et peuvent être des monstres, et peuvent être des psychopathes, il y en a, ça existe. À partir du moment où on reconnaît ça, bah, pourquoi il n'y aurait pas aussi des femmes qui les traquent, hein, donc des enquêtrices, des détectives. Et donc, pour moi, c'est des étapes. Il y a eu des femmes criminelles, et puis on a eu de plus en plus de femmes enquêtrices. Alors, souvent, c'était des justicières qui agissaient en dehors de la police, parce que pendant très longtemps, elles n'avaient pas accès à la police. Mais après, elles s'insèrent de plus en plus et elles prennent un rôle de plus en plus grand dans la police. Et puis, après, il y a une autre étape qui consiste à dire, bon, bah, c'est bien, maintenant on a le pouvoir comme les hommes, on a investi ces domaines-là, mais on veut aussi avoir, pourquoi pas, une vie de famille. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et elles revendiquent tout. Mmh. Et puis...
Puis elles sont plus nombreuses sur le terrain aussi.
Voilà. Donc j'ai essayé de montrer un petit peu toutes ces étapes, et comme je voulais montrer voilà, que c'était pour moi des étapes un peu théoriques, j'ai suivi la création du monde, comme si l'auteur féministe crée ses personnages comme la déesse a créé le monde. Et à la fin, on a ce personnage d'anti-héroïne. Mais pour qu'on ait des anti-héroïnes, il fallait d'abord que le statut d'héroïne soit vraiment bien...
Installée.
Parce que sinon, on va avoir une anti-héroïne qui est une loseuse, qui va tout rater, qui picole, qui n'est pas bien, etc. Et on va dire, ah, c'est bien les femmes, ça. Et elle va représenter la femme la classe des femmes à elle toute seule. Ça, c'est pas très bon. Donc, on avait besoin aussi d'avoir des super-héroïnes pour dire, et alors, elles peuvent aussi avoir des failles, ces héroïnes. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu montrer un peu les étapes. Pour moi, il y a une certaine évolution. Et c'est cette évolution que j'ai voulu montrer avec ce que tu appelles cette métaphore-là des 7 jours.
Oui, parce que le septième jour, voilà.
Le septième jour, on continue parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Hein. Voilà.
Alors, on remerciera les reines du crime, celles qui nous ont précédées. C'est d'ailleurs une série de la collection Le Masque.
Oui, complètement. Oui.
Voilà.
Merci, Mariama.
Ouais. Je t'en prie.
Donc, alors là, la question pour clore un peu l'émission. J'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a rendu heureuse dans ta recherche et qu'est-ce que tu veux provoquer comme sentiment ou comme état d'être chez tes lectrices, chez les lectrices de polar plutôt.
Alors, moi, ce qui m'a vraiment bouleversée, et c'est pour ça que j'ai écrit ces livres, c'est, j'ai pas trouvé de meilleur mot, hein, mais ce que les Américaines appellent l'empowerment. C'est-à-dire que vraiment, plus je lis ce genre d'histoire, ce genre de polar, avec des femmes puissantes, des femmes qui n'ont peur de rien, des femmes qui osent, qui vont très très loin, plus ça me donne confiance en fait. Et plus j'arrive à imaginer d'autres possibles ou d'autres horizons. Et donc j'ai trouvé, pour moi, la fiction est très très importante. Hein, et c'est ce que je voulais montrer aussi en travaillant sur les écrivains anarchistes. C'est comment on nous donne à voir parfois, grâce à l'utopie, grâce à des fictions, d'autres manières de vivre qui donnent envie et qui donnent envie de se battre. Et bien pour moi, c'est exactement la même chose avec ces romans policiers. Ça me donne envie de continuer de me battre. Et une autre chose que j'ai vraiment trouvée intéressante, c'est que ces femmes nous montrent aussi plusieurs façons de se battre et plusieurs manières d'être féministes. Et ça, je trouve que c'est tellement important aujourd'hui, où les féministes ont tendance parfois à se
tirer
disputer.
Dans les pattes.
Voilà, toi, tu n'es pas assez intersectionnel, toi, tu es trop ceci, toi, tu es trop proche du pouvoir, toi, tu es trop marginal, etc. Ou, tous les débats autour de...
Du wokisme.
Tu veux dire quoi ?
Le wokisme.
Oui, mais qu'est-ce que t'entends ? Enfin, pour moi, c'est pas un débat vraiment interne au féminisme, ça, tu vois. Oui. Mais les féministes se tirent dans les pattes, par exemple, en s'accusant de transphobie. Oui. Est-ce qu'on est dans un groupe non-mixte ? Est-ce qu'on accepte les transgenres ou pas ? Et voilà, pour moi, je trouve... Ou les débats autour du voile, typiquement.
Oui.
Hein, d'un côté, les féministes pro-voile, anti-voile, pro-prostitution, anti-prostitution, on devient complètement dingue. Donc, il y a un moment, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir toutes ces femmes qui, pour moi, me montrent des façons différentes d'être féministe. Et ça dépend du contexte. Alors, j'ai une enquêtrice qui est voilée. Elle habite en Arabie Saoudite. Et on voit bien que le voile, pour elle, bah c'est juste la condition de sa liberté. Son grand problème, c'est comment je prends une voiture et je vais mener mon enquête quand je n'ai pas le droit de conduire et de sortir sans un homme. Mmh. Et qu'elle n'a pas le droit de faire son métier non plus. Enfin bref. Donc, c'est intéressant cette idée. Moi, ce qui m'a plu, c'est de prendre des femmes dans un contexte particulier et qu'ils soient en Arabie Saoudite ou qu'elles soient en France ou en Suède, finalement, elles seront toujours face au sexisme, hein, parce qu'il y en a partout.
Et au patriarcat.
Et donc, comment elles font avec ces obstacles-là ? Comment elles s'en sortent ? Et chacune va trouver des choses différentes. Et chacune va avoir des armes au sens symbolique différentes. Mais c'est ça qui est intéressant. Et qui est-on pour juger qu'elle a la raison, qu'elle a tort, qu'elle devrait faire comme si, qu'elle, elle est peut-être, elle joue de ses charmes, alors elle est trop féminine. Ouais, mais elle, regarde, elle a décidé de faire tout comme un homme, donc elle joue le jeu du virilisme. Bah oui, mais à un moment, c'est ce qu'elles ont trouvé comme moyen pour s'émanciper de leurs assignations. Et je trouve ça formidable. Et c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est, voilà, manière d'être féministe, il n'y en a pas qu'une seule, quoi. Il y en a plein. Et je trouve que chaque histoire, pour moi, est intéressante.
Tu conclus en disant leur vie, donc à ces héroïnes, ne sont pas recherche d'une insaisissable identité, mais liberté d'agir, de pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire.
Alors ça, c'est pas de moi. Hein. C'est pas de moi. Non. C'est une auteure qui s'appelle Belinda Cannon, voilà, dont j'aime bien. J'aime bien beaucoup de choses qu'elle a écrites. Et ça, c'est une citation vraiment qui me tient à cœur. Parce que, voilà, je ne voulais pas non plus faire quelque chose d'essentialiste en disant les femmes, parce que c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Pour moi, c'est toujours à questionner. Et donc, quand elle dit ça, la phrase que tu as relue, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est d'être une femme, mais je suis sûre de vouloir faire de nombreuses choses, dont la plupart pourraient également être faites par des hommes, d'ailleurs. Et mon seul souci est qu'on ne m'empêche pas, sous prétexte que je suis une femme, de le faire. Donc, pour moi, c'est ça, vraiment, le combat de ces femmes. La plupart sont... Voilà, elles sont nées femmes, elles ont été assignées femmes à la naissance. Mais le combat, c'est qu'à un moment, on arrête de les regarder comme des femmes, tout le temps, partout.
Et au passage, dans le dernier chapitre de ton livre, tu essayes de convaincre le lecteur de l'importance de la lecture et de la littérature. Quel est l'effet, d'après toi, de la littérature sur les jeunes, par exemple, qui lisent ?
Ouh là là, non, mais je peux pas en parler. Je sais pas, je peux juste dire sur moi.
Oui.
Tu vois, je peux dire juste simplement que pour moi, la littérature, c'est vraiment se mettre dans la tête de quelqu'un et arriver à avoir un autre point de vue. Pour moi, c'est ça, les romans. Et c'est ça ce que ça m'a appris. Et le fait de lire ces histoires d'un point de vue de femme... Alors, d'ailleurs, c'est parfois écrit par des hommes. Hein. J'ai pas choisi que des auteurs femmes. J'ai quelques auteurs hommes qui écrivent, qui créent un personnage féminin. Mais souvent, on est quand même dans la tête du personnage féminin, enfin, la plupart du temps, tout le temps. Et le fait d'avoir un point de vue féministe, on va dire, ça, c'est très intéressant. Parce que quand on se met dans la tête d'une femme, quand on se met dans son expérience, dans sa vie, bah, y a des choses qu'on n'avait peut-être pas, enfin, que les hommes, enfin, tu pourrais confirmer ou pas, mais n'avaient peut-être pas imaginé. Ce que c'est, par exemple, d'avoir l'uniforme qui pèse très très lourd, qui n'est pas du tout fait pour le corps, avec l'arme qui est trop... qui n'est pas adaptée. Et puis, un jour, on a ses règles. Mm. Voilà, c'est tout bête. Hein? Mais voilà, qui nous raconte ça si ce n'est des femmes qui l'ont vécu ? qu'est-ce que ça fait d'arriver, de voir la victime d'un viol et de se dire, tiens, mais ça m'est arrivé aussi, ou ça aurait pu être moi, ou ça pourrait m'arriver un jour. C'est pas la même chose que d'être un mec. Il y a des choses différentes, non pas parce que hommes et femmes sont essentiellement différents, ça je le pense pas du tout, mais parce que dans la société, on n'a pas les mêmes rôles, on n'a pas les mêmes expériences, la plupart du temps. Et donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ces romans. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a rien qui remplace la littérature, de pouvoir se glisser comme ça dans la tête de quelqu'un et d'avoir accès à son expérience.
Oui, tu emploies une expression que j'ai appréciée, c'est façonner l'imaginaire. La littérature, ça façonne l'imaginaire. C'est-à-dire que ça donne des idées, des façons de penser qu'on n'a pas par soi-même découvertes,
oui, mais alors, ressenties. Tu sais, on pourrait dire les films aussi, hein, c'est pas seulement la littérature, c'est la fiction en fait. Les films, les pubs façonnent notre imaginaire aussi, toutes les images qu'on nous balance. Et c'est pour ça aussi les féministes ont dénoncé largement ce qu'elles appellent la culture du viol. C'est-à-dire que notre imaginaire est façonné par ça. C'est-à-dire qu'on est bercé d'images où finalement, dans toute la littérature depuis le Moyen-Âge, enfin pas depuis le Moyen-Âge, mais surtout au XIXe siècle, on va dire, la femme dit non et puis en fait, elle veut bien. Ça fait du mal à nos imaginaires. Ça nous déforme complètement et plein de... homme ou femme, on a ça dans la tête. Et ça va régir nos rapports amoureux, nos relations. Qui fait le premier pas, qui va dire oui, qui va dire non, la question du consentement. Tous les malentendus, ensuite, ils viennent de là. Et donc, c'est important de déjouer ces scripts patriarcaux et d'écrire d'autres histoires, justement, qui seront différentes. Des histoires d'amour, de désir, de liberté, où on n'a plus cette inégalité fondamentale. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ces livres-là. Donc oui, je crois beaucoup au pouvoir de la fiction, on va dire. Mais ça peut être aussi des films, ça peut être des séries, ça peut être des images, ça peut être plein d'autres choses qu'il faut qu'on invente pour avoir d'autres mythes dans la tête, d'autres fictions, d'autres...
Un autre imaginaire.
Un autre imaginaire, moi, je pense vraiment.
Et d'autres modèles. Tout
d'autres modèles qui ne soient pas ceux du capitalisme et du patriarcat.
Caroline, ça va être bientôt la fin de l'émission. Donc, avant de nous séparer, j'ai envie de te demander, tu aimes écrire, on le sent, qu'est-ce que tu prépares ? Est-ce que tu prépares quelque chose ? Et si oui, quoi ? Et si tu veux bien nous le dire, parce que certains auteurs
Non, mais je prépare absolument rien, parce que je ne vois pas quoi faire d'autre que de continuer à lire des polars. Je ne peux pas imaginer autre chose. Donc je vais continuer à en lire. Je ne vais peut-être pas écrire tout le temps le même bouquin. Donc peut-être qu'il y aura une fin là. Peut-être que c'est le dernier. Ou peut-être que je peux faire le même tous les 10 ans et les 20 ans. J'actualise avec des nouveaux auteurs, des nouvelles enquêtrices. Pourquoi pas ?
Alors, on a oublié de préciser que tu as un blog. Tu peux donner son adresse, s'il te plaît ?
Alors, j'ai créé un blog... Pour échanger, voilà, qui s'appelle Vive les polars féministes. Donc, si vous tapez le titre, Vive les polars féministes et mon nom, Caroline Granier, normalement, vous tombez dessus sur les moteurs de recherche.
Bien.
Alors, précisant aussi comme.
L'éditeur de la maison.
Ah oui, alors l'éditeur, c'est Ressouvenance.
Les deux livres.
Pour les deux, c'est le même qui avait édité aussi mon livre sur les anarchistes, les écrivains anarchistes de la fin du 19e. Donc, magnifique maison d'édition, complètement indépendante. Et le seul, Jean-Louis Paul, merci encore, le seul qui a bien voulu publier mes livres aussi.
Bien.
Tous ces livres, enfin ces deux livres sont, rappelons-le, en vente à Publico.
145 rue Amelot dans le 11e. Métro République, Fille du Calvaire et Oberkampf.
Bon, alors traditionnellement, Mariama, tu n'aimes pas dire le sujet de l'émission dans 15 jours, donc nous ne l'annoncerons pas.
Voilà.
Ok.
Tout à fait.
Voilà, merci Caroline, merci Mariama, merci Jean-Mi pour ta technique et à dans 15 jours.
D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je le laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve.